France Musique.
Une belle journée à vous, Karine Le Bay. On vous retrouve dimanche prochain.
France Musique.
Bonjour à toutes et à tous, c'est l'avant-dernier numéro de l'Ère des Lieux. Aujourd'hui, deux dernières émissions sous la forme d'un diptyque royal. Nous serons à Versailles la semaine prochaine et nous sommes cet après-midi à Saint-Denis. C'est ici que la plupart des souverains de France ont trouvé leur dernière demeure, du bon roi Dagobert jusqu'à Louis XVIII. La nécropole royale de la Basilique abrite plus de 1000 ans d'histoire. Il y a quelques jours, le festival de Saint-Denis faisait revivre et résonner tout un office musical et autour de lui un spectacle. Une évocation des grandes funérailles au temps des Bourbons. Leurs pompes funèbres ont été des cérémonies somptueuses et spectaculaires. Vous allez découvrir cela tout de suite. Bienvenue.
Louis le Grand n'est plus. Il est réduit en poudre. Ô Français, répandez de l'encens de toutes parts. Il imita trois dieux. Par l'adultère, Mars, Mercure par le vol, Jupiter par la foudre. Six gisent en même tombeau, le grand Louis et les finances, et la bulle et l'édit nouveau, et de Tellier les manigances. Mortels qui visitaient ce lieu, le plus célèbre de la France, apprenez qu'il faut craindre Dieu, et mettre en lui son espérance. Ci-dessous est inhumé, qui supprimant fut supprimé.
L'ère des lieux à la basilique Saint-Denis, funérailles royales au temps de Louis XIV, sur France Musique jusqu'à 17h.
Il était presque aussitôt après, rompu une seconde fois par ce cri morne et lugubre qui s'échappait à trois reprises des entrailles de la terre.
Le roi est mort ! Le roi est mort ! Le roi est mort !
Nathalie Rapaport, c'est avec vous que l'on ouvre ce nouveau numéro de l'Ère des Lieux sur France Musique. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h, comme chaque dimanche. Vous êtes la directrice du Festival de Saint-Denis. Avec vous, on pourrait faire quelques milliers d'années d'histoire et rappeler les origines de la basilique dans laquelle on se rencontre. On peut faire une histoire un tout petit peu plus courte, qui est celle qui nous ramène aux origines, pour le coup, du festival et de sa création. C'est à cette occasion, bien sûr, qu'on se rencontre, à l'occasion d'un spectacle qu'on va évoquer ensemble. C'est la fin des années 1960, le début du Festival de Saint-Denis.
Oui, exactement. C'est effectivement la fin des années 60, la toute fin des années 60, puisque la première édition du festival a eu lieu en 1969. Et les grands moments du festival, c'est effectivement le partenariat avec Radio France en 1979, qui a vu en fait l'arrivée des orchestres de Radio France au cœur de la programmation du festival.
Et les grands chefs qui allaient avec.
Exactement, c'est Gio Zawa, Kurt Mazur, Ricardo Muti. Et tant d'autres.
Alors, on ne va pas tout à fait tricher, on va dire aux auditeurs de France Musique qu'on s'est un peu abrité aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de vent à Saint-Denis. Mais tout de même, nous étions sur le parvis de cette basilique Saint-Denis. En levant les yeux, moi j'ai découvert une basilique que je n'avais pas vue depuis 2 ou 3 ans, qui est quasiment entièrement restaurée et qu'on redécouvre, Nathalie.
Complètement, on la redécouvre parce que les services de la DRAC ont entrepris en fait la rénovation de la façade. Donc on découvre une pierre blanche qu'on n'avait pas vue depuis des années puisqu'elle était ensevelie sous une couche noire de poussière et de différents éléments qui s'y étaient déposés. Et c'est effectivement impressionnant parce qu'il y a tous les détails architecturaux qui étaient invisibles et qu'on redécouvre. On arrive même à lire le nom des rois qui sont sculptés tout en haut de la tour gauche. Et on peut même, depuis l'automne dernier, découvrir l'horloge qui a été totalement restaurée et qui est toute luisante d'or avec des incrustations de bleu. Enfin bon, c'est juste formidable et très très beau. On attend la suite avec impatience, qui ne devrait pas tarder.
Si on revient vous voir dans quelques mois, peut-être pour l'édition 2016, la basilique sera entièrement restaurée.
Exactement, la façade en tout cas.
La façade
sera entièrement rénovée. Et nous n'aurons plus ces échafaudages qui masquent en partie la basilique.
Alors le cœur battant de ce festival, c'est bien entendu la basilique de Saint-Denis dans laquelle on se rencontre, en tout cas juste devant Nathalie Rapaport, depuis, donc vous le rappeliez, la fin des années 60. Et qui dit basilique de Saint-Denis dit la grande histoire des rois et des reines de France que l'on sait. C'est ici la nécropole royale de la plupart des reines et des rois. C'est la grande histoire, c'est la musique qui va avec, et c'est par exemple le spectacle, le programme musical qu'on va entendre ce soir, qui revient au fond sur les funérailles de Louis XIV, et plus largement des funérailles des reines et des rois au temps de Louis XIV. On va célébrer dans quelques mois le tricentenaire de la disparition du roi Soleil. D'où est né ce projet ?
Alors effectivement, comme vous l'évoquez, en fait, le festival est très attaché à présenter en fait des œuvres et des créations en liaison avec l'histoire du lieu. Et ce concert de ce soir, en fait, entre tout à fait dans cette catégorie, puisque ce sont des chercheurs, en fait, du Centre de musique baroque de Versailles qui sont venus nous voir en janvier 2014, donc ce n'est pas si vieux, et pour nous proposer de reconstituer, de redonner, en fait, la musique qui était donnée lors des funérailles royales au temps de Louis XIV. Et c'est vrai que, effectivement, c'est très vite posé la question des textes, et nous avons, en fait, imaginé de profiter de l'installation toute récente de l'équipe de Jean Bellorini au Théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis pour lui proposer, en fait, de participer à cette création. Dans la mesure où il nous importait en fait que cette reconstitution soit pas simplement une reconstitution muséale, mais qu'elle soit ancrée en fait dans le monde contemporain, et surtout que qu'il y ait une sorte d'évocation au sein de cette cérémonie de la procession en fait qui avait lieu du corps, pour le transporter le corps de Louis XIV de Versailles jusqu'à Saint-Denis, ce qui est le cas justement dans le dispositif qu'a intelligemment et ingénieusement imaginé Jean Bellorini avec son équipe. Et puis aussi, ce qui nous importait, c'est qu'il y ait la présence en fait du peuple français qui assistait justement à cette procession. Que ça soit pas simplement une évocation royale entre personnes royales, mais qui effectivement à Saint-Denis, c'est d'autant plus important pour nous et pour la ville, qu'effectivement il y a cette interaction qui existe à Saint-Denis, puisque cette basilique est implantée au cœur d'un territoire parmi les plus populaires de France, et ça nous semble important que les rois et les reines, mais aussi le peuple, se rencontrent justement au sein de cette création. Et puis ensuite, effectivement, il nous a semblé important d'y associer un musicien avec qui nous avons des accroches pas si ancienne, mais quand même assez profonde, puisque c'est la troisième fois que nous allons inviter Leonardo Garcia Alarcón, qui n'était pas un spécialiste de Lully, mais moi, il m'a semblé intéressant et amusant, en fait, que ce soit un spécialiste de la musique italienne à qui on propose de recréer, en fait, ces motets de Lully, qui sont l'une des parts importantes, en fait, de la musique qui était donnée lors de ces funérailles. Leonardo Alarcón, qui, justement, en fait, après tout son travail autour des opéras de Cavalli, trouvait épatant, en fait, de s'intéresser tout d'un coup à son rival, à Lully.
Thank you.
entrées dans la basilique de Saint-Denis. Nous sommes avec Thomas Lecomte, qui est chercheur responsable des éditions scientifiques au CMBV, le Centre de musique baroque de Versailles. On est au cœur de cette basilique, on a sous les yeux le dispositif qui va servir au spectacle auquel on va assister ce soir, Funérailles au temps de Louis XIV. Est-ce qu'il ressemble peu ou prou à ce que quelques spectateurs, on va dire, favorisés du grand public, en tout cas de la population parisienne et des alentours, mais pouvaient assister, par exemple, un jour d'inhumation de Louis XIV, c'est-à-dire le 23 octobre 1715.
Alors, bien sûr, nous sommes dans la nef qui a été modifiée au XVIIIe siècle. Le fameux jubé qui clôturait le chœur liturgique dans toutes les églises, les cathédrales de France, qui ont été supprimées au XVIIIe siècle, fermait ce chœur liturgique où tout se passait, hein, toute la cérémonie, toute la liturgie. Dans le dispositif aujourd'hui, nous avons essayé de restituer un petit peu cette disposition du chœur liturgique préparé pour les funérailles royales. Et donc nous avons donc dans la nef disposé les chaises face à face, on peut dire dans le Parlement anglais, si on peut dire. Donc ça évoque en fait la disposition des stalles et des tribunes et des échafauds provisoires qui étaient montés dans le chœur liturgique pour ces funérailles royales, échafauds qui étaient évidemment en bois, mais décorés de tentures, de luminaires extraordinaires, et dans lesquels se plaçaient les membres de la cour, des personnes de qualité, comme on disait à l'époque, mais surtout les corps de l'État, les corps du royaume, la cour des monnaies, la cour des aides, le Châtelet, l'université de Paris. C'est en fait les symboles du pouvoir monarchique. Donc ils se plaçaient dans le chœur liturgique, dans ces stalles et ces échafauds qui sont aujourd'hui évoqués à travers ce placement en Parlement anglais dans lequel le public ce soir va se placer.
Alors si l'on compose un programme comme celui-ci, des funérailles au temps de Louis XIV ici à la basilique Saint-Denis, c'est, faut-il le rappeler, parce que cette basilique est aussi la nécropole royale des rois francs et français, que c'est ici qu'on a inhumé évidemment donc Louis XIV en 1715, les souverains qui lui ont succédé, ceux qui l'ont précédé, Marie-Thérèse d'Autriche quelques décennies auparavant, son épouse, ça c'est très important parce que c'est pour ces funérailles-là qu'on a beaucoup de documents, et notamment de documents qui ont trait à la musique qu'on a entendue pour ces funérailles, on va en parler avec vous. Qu'est-ce qui est très bien documenté, au fond, justement, sur l'inhumation de ces souverains de France, si on remonte vraiment même dans le temps davantage, Thomas Lecomte ?
Alors, les funérailles royales les plus documentées, je dirais, sont celles des Bourbons, hein, 17e et 18e siècle, jusqu'à Louis XV. On a des documents assez différents. Ça va des documents figurés, c'est-à-dire des gravures, hein, mais aussi des relations, beaucoup de relations de contemporains, des journaux des grands maîtres des cérémonies de la cour aussi, qui décrivent par le menu tout ce qu'il fallait construire et tout ce qu'il fallait mettre en place, tout ce qui était commandé par donc le roi régnant. Donc on a énormément de documents épars, mais comme vous le soulignez, c'est pour la reine Marie-Thérèse d'Autriche, qui était l'épouse de Louis XIV, et morte le 30 juillet 1683, inhumée à Saint-Denis le 1er septembre, qu'on a vraiment le plus de documents sur toute la globalité de la cérémonie, depuis les préparatifs jusqu'à la cérémonie elle-même. Donc des documents à la fois figurés, je le disais, beaucoup de gravures, notamment des dispositifs de l'appareil funèbre, comme on disait. Hein. On a le catafalque, le dispositif du chœur. Mais aussi, on sait quelle était la musique avec précision la musique qui avait été donnée pour ces funérailles. Alors, la musique pour les funérailles de la reine Marie-Thérèse ne sont pas spécifiques forcément à la reine Marie-Thérèse, en ce sens que la messe des morts qui était chantée était finalement plus ou moins toujours la même, quels que soient les rois, les reines ou les princes et princesses. On dit souvent que c'est la messe, la Missa pro defunctis de Ducouroy, donc le requiem d'Eustache Ducouroy, qui était sous-maître de la chapelle d'Henri IV. Mais finalement, très peu de documents l'attestent, en tout cas aucun document l'atteste. En revanche, il y a une autre messe, donc dans ce même style ancien que la messe des morts de Ducouroy, une autre messe d'un compositeur picard, Charles Delfer. Donc une messe publiée en 1656, dont on sait, là, précisément, qu'elle a été utilisée pour les funérailles royales durant tout le XVIIIe siècle, et très probablement à partir de Marie-Thérèse, et peut-être même à partir d'Anne d'Autriche, donc Marie-Thérèse en 1683 et Anne d'Autriche en 1666.
Et donc Louis XIV et donc Louis XV, c'est ça ?
Et donc très probablement, donc Louis XV, on sait que c'est la messe de Delfer, alors probablement elle a été remise plus ou moins au goût du jour. Peut-être avant aussi, on mettait au goût du jour, mais là, on n'a aucun document précis concernant un arrangement ou non de cette messe. Mais en tout cas, c'est bien cette messe de Delfer qui servait aux funérailles, et ce, jusqu'à Louis XV.
Il faut évoquer le décorum aussi d'une certaine façon qui accompagnait ces funérailles. Le temps lui-même d'ailleurs dit à quel point la cérémonie est importante entre le moment où la souveraine ou le souverain disparaît et puis jusqu'au moment de l'inhumation. Il peut se passer non seulement plusieurs jours mais plusieurs semaines voire quelques petits mois. C'était le cas par exemple de Marie-Thérèse. Ça a été quasiment 2 mois dans le cas de Louis XIV, mais il faut évoquer aussi le faste avec lequel on enterre ici, on inhume, ne serait-ce qu'un souverain comme Louis XIV.
Alors, effectivement, il y a plusieurs paramètres qui justifient ce temps très long. Déjà, le cérémonial, puisque le cérémonial est très long. Dès la mort, il y avait donc autopsie, retrait du cœur, des entrailles, qui étaient mis dans des boîtes à part, pour être inhumés à part, lors de cérémonies spécifiques. Le corps, ensuite, était exposé dans un cercueil, à partir de Louis XIII. Il faut savoir que Louis XIII, en fait, modifie et simplifie un peu les funérailles royales, qui étaient encore plus complexes jusqu'à Henri IV. Vous l'avez dit, ça pouvait durer, je crois, pour Henri IV, ça a duré 3 mois. À peu près, depuis la mort jusqu'à l'inhumation. Il est mort le 14 mai et les funérailles ont eu lieu en juillet. À partir de Louis XIII, c'est un petit peu plus court, puisqu'il enlève plusieurs stades du cérémonial, mais ça dure quand même, oui, vous l'avez dit, au moins un mois et demi, voire 2 mois, du moment où le corps est exposé au public environ une semaine dans le lieu de décès. Donc pour Louis XIII, c'était Saint-Germain-en-Laye. Pour Marie-Thérèse, c'était Versailles. Louis XIV aussi. C'est la première étape du cérémonial officiel, cette exposition du corps après l'embaumement. Et ensuite, le corps est transféré à Saint-Denis de nuit. Ce n'est pas un trait de de discrétion ou pour éviter la vindicte populaire, comme on l'a souvent dit pour Louis XIV. Oui. C'est une volonté de Louis XIII de transporter le corps de nuit. C'est la symbolique du passage de la mort, des ténèbres, à la lumière, à la rédemption, au petit matin. Le corps arrive à la basilique de Saint-Denis, sa dernière demeure. Donc c'est vraiment un trait essentiel, je dirais même, du cérémonial mis en place par Louis XIII et donc adopté par tous ses successeurs.
Et puis il y a la cérémonie elle-même.
Alors après l'arrivée du corps à Saint-Denis, il est encore exposé pendant une quarantaine de jours dans la basilique. Alors de préférence dans le chœur clos, qui n'est souvent pas prêt, puisque toutes les estrades, tous les échafauds, tout le décor, le programme décoratif extraordinaire n'est pas encore souvent mis en place. Donc on dresse une chapelle ardente qui se situait, en tout cas pour Louis XIV, on le sait puisqu'on a une gravure correspondante, qui se situait dans le haut chœur, donc dans le chevet de la basilique, derrière le chœur actuel. Donc une chapelle ardente qui elle-même était tendue de draps noirs, décorée aux armes, rehaussée de luminaires et forcément d'un décor encore funèbre assez majestueux. Au cœur duquel prenait place le cercueil, qui était une nouvelle fois, donc comme au lieu du trépas, il était à nouveau exposé à tous ceux qui voulaient venir veiller le corps. Le corps était veillé par les religieux de Saint-Denis, qui disaient des prières continuelles nuit et jour, et on chantait des offices, des messes des morts, des vêpres des morts. Au dernier jour, la musique de la chapelle et de la chambre arrivait pour chanter les dernières vêpres la veille des obsèques.
Ce que je vous propose peut-être, Thomas Lecomte, c'est qu'on aille dans la crypte de cette basilique Saint-Denis où est programmée une exposition en regard au concert qu'on va entendre, au spectacle qu'on va voir ce soir, et puis à l'occasion aussi donc, des 300 ans de la disparition et de l'inhumation ici en la basilique Saint-Denis de Louis XIV, donc en 1715.
Yeah.
Ici, nous sommes dans la crypte de la basilique de Saint-Denis, la crypte qui abrite le tombeau des Bourbons en son centre, où étaient en fait déposés les cercueils des Bourbons, donc à partir d'Henri IV, les rois, les reines et les princes de la Maison de France. Aujourd'hui, donc, le caveau des Bourbons abrite les dépouilles de Louis XVI, Marie-Antoinette, Louis XVIII, enfin voilà. Donc c'est ici qu'est présentée l'exposition qui complète et qui est finalement le volet visuel et historique du projet, où sont montrées en six chapelles, donc en six stations, si on peut dire, les grandes articulations du cérémonial des funérailles royales depuis sa première phase, comme je le disais, qui est l'exposition du cercueil dans le lieu du trépas. Donc pour cette phase, on a une gravure montrant la chambre du trépas de Louis XIV. Voilà, c'est celle qui est derrière nous, c'est la première. Et on voit le dispositif de cette première étape du cérémonial des funérailles. Ici, on a une gravure montrant cette exposition de Louis XIV. Je disais que tout à l'heure qu'on avait beaucoup de sources figurées liées à ces funérailles royales. Et donc, on a pour Louis XIV l'exposition du cercueil. Alors, quand on regarde bien la gravure, on ne voit pas de cercueil, puisque on voit finalement une représentation d'un souverain en manteau d'hermine, avec la couronne, etc. Puisque avant les remaniements faits par Louis XIII, on présentait une effigie du roi, c'est-à-dire un mannequin avec une tête de cire, un masque de cire, qui représentait le roi défunt, qui marquait finalement la pérennité et la continuité de l'incarnation du corps du roi. Voilà. Louis XIII a voulu enlever tout ça et montrer l'inverse, c'est-à-dire montrer le caractère terrestre de l'enveloppe charnelle du souverain. Et donc, à partir de Louis XIII, c'est un cercueil qui va être exposé, et non plus une effigie. Mais dans certaines représentations, et notamment celle de Louis XIV, qui est montrée dans cette exposition, on a encore cette tradition de montrer une effigie royale, alors que la réalité donc était très différente. Mais on voit quand même le dispositif autour du lit, hein, tout le dispositif de cette veille qui durait environ une semaine, la veille du corps, hein, au cours de laquelle étaient dites des messes et des offices des morts en permanence, et la musique du roi qui chantait tous les jours une grande messe des morts depuis le salon attenant. Au bout d'une semaine environ, donc le cercueil, le corps était convoyé vers Saint-Denis, où il allait être donc convoyé de nuit, hein, à partir de Louis XIII, où le corps allait être à nouveau exposé donc au public pendant une quarantaine de jours. En tout cas pour Louis XIV, il a été veillé 40 jours, à peu près dans des conditions similaires que l'exposition dans le lieu du trépas. Alors que là, les religieux qui veillaient le corps, c'était les religieux de Saint-Denis, évidemment, puisque une fois que le corps entrait dans la basilique de Saint-Denis, il était sous la protection et sous la juridiction presque du clergé de Saint-Denis. La musique de la cour, la musique du roi, n'arrivait là encore que la veille pour chanter les dernières vêpres des morts, la veille des obsèques. Alors pourquoi 40 jours? Puisque ces 40 jours étaient aussi finalement assez fonctionnels, puisqu'il fallait achever de monter tout le dispositif dans le chœur liturgique pour les obsèques.
Amen.
Donc une fois que le dispositif du chœur était prêt, le cercueil a été transféré de la chapelle ardente à l'intérieur du chœur, où était dressé un castrum doloris, c'est-à-dire un château de douleur. C'est une grande structure décorative qui faisait partie d'un ensemble décoratif beaucoup plus vaste, dont j'ai évoqué quelques points tout à l'heure au niveau des tribunes, par exemple, des échafauds construits, tout était tendu de draps noirs, des boiseries, des luminaires, etc. Mais le point de mire était bien évidemment le mausolée, au sein duquel, donc le castrum doloris, une grande structure architecturale, au cœur duquel était placé le cercueil, lui-même recouvert de draps, on disait le poêle, les draps mortuaires, les draps d'hermine, et recouvert des régalias, c'est-à-dire les insignes du pouvoir, la couronne, le sceptre et la main de justice. Donc tout était prêt maintenant pour les obsèques proprement dites, qui se déroulait quasiment sur toute la journée, en tout cas la musique, puisque c'est un petit peu le centre aussi de nos préoccupations. Les musiciens de la musique de la chapelle et de la musique de la chambre étaient tenus d'être en position dans leur jubé à partir de 8h du matin, et ils n'en bougeraient pas avant 16h au mieux. Donc la cérémonie elle-même ne durait probablement pas 8h, mais on peut supposer quand même qu'elle durait très longtemps. Donc elle se déroulait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une alternance permanente entre la messe polyphonique de Delphère pour la fin du XVIIe et le XVIIIe siècle, et ses grands motets. Donc dans cette alternance, on peut signaler aussi, enfin, moi j'y vois, d'un côté la permanence de la monarchie à travers cette musique dite ancienne, en tout cas dans un style ecclésiastique, stylo antico aussi, style ancien, cette grande polyphonie qui se déploie, et en face, le côté peut-être plus moderne et l'ancrage contemporain de la royauté, de la monarchie, à travers les grands motets dirigés par le sous-maître de la musique de la chambre, qui était finalement la composante la plus profane, entre guillemets, de la musique de la cour. Donc, aussi, dans la musique, il y a une symbolique très forte qui participe au grand programme décoratif, au vaste programme décoratif surchargé d'allégories, de symboles et d'emblèmes qui étaient mis en place dans le chœur liturgique de la basilique.
France Musique.
La pelletée de terre qui rappelle aux rois et aux empereurs, comme aux plus humbles de leurs sujets, la destinée commune à tous. La pelletée de terre, disons-nous, rompait en tombant sur le cercueil le morne et solennel silence qui s'étendait à ce moment dans toute la basilique. Il était presque aussitôt après rompu une seconde fois par ce cri morne et lugubre qui s'échappait à trois reprises des entrailles de la terre.
Le roi est mort ! Le roi est mort ! Le roi est mort !
Vive le roi ! Vive le roi ! Vive le roi ! Vive le roi !
Et que complétait la parole chrétienne ?
Priez Dieu pour son âme.
Domine, 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 exaudi vos semblants.
voudrais vous citer Leonardo Garcia Alarcón, puisqu'on parle philosophie, justement, et mystique, d'une certaine façon. La dernière nuit, c'est le titre de ce spectacle. C'est surtout un dialogue, dites-vous, avec des âmes et des hommes qui habitent un lieu et un espace au-delà du temps, une manière de ressusciter l'écho de ces idées et émotions. La physique moderne nous enseigne que toutes les particules qui constituent la matière seraient l'émanation d'une seule entité qui serait une vibration, comme l'homme de la Renaissance l'avait déjà imaginé. De ce point de vue, l'univers serait de la musique et on aurait un jour la possibilité de voyager dans le temps grâce à elle.
Il est vrai. C'est vrai que j'ai écrit mieux que je parle, alors je m'excuse d'avance. Je pense que ce qui est important, et je parle de la physique parce que c'est elle qui me permet d'expliquer des fois pourquoi j'aime beaucoup ce type de concert-concept, d'une certaine façon. Ça veut dire qu'on partage avec le public des œuvres de différentes époques, comme cette Messe Helfer, comme les grandes montées des Lully, que des fois on n'associe pas trop dans la même cérémonie, ou par exemple des textes de différentes époques aussi, qui vont de l'Ancien Testament à des textes d'aujourd'hui, comme on va vivre dans cette création. Et cela provoque dans le public une réflexion philosophique très grande, parce que aussi les musiciens se sont mis à réfléchir sur notre participation dans les projets, parce qu'on a beaucoup de moments dans lesquels on admire un autre ensemble. C'est-à-dire, dans la basilique, on a pu se placer vraiment avec une distance énorme où l'ensemble fait tous les pleins chants et nous, on joue les grandes montées. Ça veut dire exactement opposé. Et pendant tous ces moments de pleins chants, nous, on arrive à avoir une réflexion sur cela et sur ce que les acteurs sont en train de proposer ou de dire. Et on se positionne aussi. Ça nous permet d'oublier beaucoup de choses, mais aussi de nous rappeler que chacun d'entre nous, entre les musiciens, on a eu des discussions vraiment énormes sur les rois, sur la monarchie, sur la démocratie, sur les différents systèmes politiques. Alors, cela nous a permis de comprendre qui est chacun d'entre nous aussi, parce que après, dans les discussions, vraiment, ça peut faire mal ce qu'on arrive à dire de Louis XIV, ce qu'on arrivait à dire même au moment de sa mort, et aussi qu'on les dise dans un lieu pareil. Surtout aussi, ça c'est très 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 important, parce qu'on demande aussi du respect, et c'est des musiciens par les lieux, même si c'est des textes historiques, ça touche beaucoup. Et avec une question de si on commence à juger plus entre si on parle des péchés capitaux de l'Église catholique et des vertus morales, on peut aussi analyser que toute la messe de Helfer signifie toutes les vertus les plus grandes de l'ancien France, et depuis la naissance de Louis XIV, c'est son royaume, les grandes montées de Lully, c'est vraiment la gloire absolue, mais aussi la vanité. Et la plus grande est la France, qui a fait rayonner partout dans le monde, mais qui aussi montrait, comme beaucoup de textes de l'époque le disent, que c'était un roi qui pensait seulement à lui-même et qui se croyait Dieu et qui oubliait les peuples. Alors, quand on joue de Lully, on ressent cela. C'est-à-dire, on ressent que par rapport à la messe de Helfer, il y a eu une coupure énorme, et qui dans l'histoire de l'Occident, on sait très bien à quel point était grande et à quel point l'utilisation des arts par ces rois était un moyen politique. La création de l'opéra français, c'est un exemple, mais Lully représente tout cela. Alors pour nous, c'était une expérience très très forte. Et dans les aires des lieux où on aime partager avec le public, à quel point, si on est dans des pierres qu'on a entendues, une musique qui a été faite ici, pour nous musiciens, c'est très très difficile d'assumer une autre position que ce n'est pas la défense de cela et de ces idées. Même si je dois le dire, je dois l'avouer, comme je suis un cavaliste et j'aime Monteverdi Cavalli plus que tout, aborder de Lully au début était presque un problème philosophique très très fort.
Faisait un tour de cette basilique Saint-Denis avec Thomas Lecomte, notamment, qui est chercheur au CMBV. J'ai essayé d'imaginer un peu ce qu'était le son, les sons, l'ambiance sonore d'une cérémonie comme l'inhumation d'un souverain ou d'une souveraine comme Marie-Thérèse d'Autriche, comme Louis XIV. Est-ce que les sons qu'on va entendre dans un spectacle dirigé par vous, Leonardo Garcia Alarcón, ils tenteront de s'approcher de sons de l'époque, ou est-ce qu'on est dans autre chose ? Est-ce que l'Ulule sous votre baguette va résonner comme il pouvait résonner en 1715 ici, ou c'est autre chose?
Alors, je crois que l'utopie du XXe siècle d'être vraiment dans la exactement au texte et pouvoir avec les instruments faire le mieux possible avec la lecture des traités et tout cela, c'est quelque chose de formidable. Mais c'est un grand rêve qui part de la nostalgie des musiciens et des êtres humains de perdre des époques et de ne pas pouvoir vivre, revivre. Et je pense que c'est un acte vraiment très altruiste des musiciens de pouvoir faire cela, mais on doit savoir que c'est impossible. Même si on admire une époque, même si on connaît absolument tout, c'est très difficile. Parce que même si je peux admirer mon grand-père, moi je ne pourrais pas être comme mon grand-père. C'est quelque chose de très simple que je viens de vous dire, mais c'est impossible d'être Lully et de pouvoir faire Lully. Mais par contre, lui, par rapport à la musique italienne, il laisse presque tout écrit. Et ça veut dire que la matière sonore, les instruments qui sont là, les chœurs, les tutti, les solos, tout est là, la basse continue. C'est pas comme en Italie où on doit reconstruire absolument tout, parce que c'est dans les affetti extrinsèques et que ça se passe. Ici, les affetti intrinsèques, c'est-à-dire ce qui doit se faire, et sont très très forts. Il a construit un monument qui, depuis lui, c'est possible de rétablir, comme toute la musique française d'ailleurs, je crois, avec une plus grande fidélité de ce qui a pu être à l'époque. Pour l'Italie, on doit partir plus sur les songes, sur l'imagination.
J'entendais que ça vous menait loin, dites donc, de faire un spectacle comme celui-ci à la Basilique Saint-Denis. Je veux dire, dans les conversations que vous pouvez avoir, vous disiez, avec des musiciens, avec la grande histoire aussi, que, évidemment, suscite et... révèle d'une certaine façon un édifice comme la Basilique Saint-Denis, nécropole royale des souverains de France, beaucoup de princes aussi. Il y a quelque chose de particulier qui se passe dans un lieu comme celui-ci, quand on vient y diriger un spectacle comme la dernière nuit, une ambiance, quelque chose qui a à voir avec un recueillement, un respect, où au fond les choses sont sensiblement les mêmes que dans un autre lieu.
Je pense que les lieux inspirent un respect énorme, mais aussi inspirent notre imagination. Les lieux, surtout, nous permettent de comprendre pour quel type d'espace un grand motet a été composé aussi. Parce qu'on sait très bien que, par exemple, le Dies Irae a été interprété exactement dans ces lieux en 1683. Alors, interprété pour la deuxième fois ici même, où les pierres ont déjà entendu exactement la même musique dirigée par Lully, pour nous, c'est quelque chose de très fort. Les lieux lui-même, et surtout assister au lieu, au moment où la lumière est en train de disparaître, parce que le spectacle commence, la lumière elle est encore là, et petit à petit, on va vers l'obscurité. Et cela nous permet aussi de voir quelque chose à laquelle on assiste très rarement, c'est-à-dire que c'est à comment les vitraux sont en train de se transformer, comment les couleurs se transforment aussi et se transforment en nuit. Alors c'est là comme symbole de la mort même, c'est-à-dire de la vie et de la mort. Alors cet spectacle commence avec cela et on peut voir les sons aussi dans toutes les chapelles, de quelle manière les sons peuvent se répandre partout, que c'est ce qu'on essaye de faire aussi, et nous aide aussi à comprendre pourquoi la polyphonie et de quelle manière la polyphonie a été composé pour ces lieux et quel tempi on doit prendre, de quelle manière on doit parler, comment on doit respirer, quel silence créer après les grands chœurs pour partir vers un solo. C'est toutes des choses pour lesquelles un lieu parle par lui-même, ce n'est pas la partition. C'est pour ça que la spatialisation, c'est un des paramètres les plus importants du monde baroque, et on doit vraiment écouter plus ce que le lieu a à nous dire sur comment interpréter une pièce.
Et avec peut-être aussi une volonté de faire ressortir le plus possible les contrastes entre une partition comme celle d'Elfer et les motets de Lully. C'est aussi ça, la direction musicale que vous avez prise avec le chœur de chambre de Namur et tous vos musiciens, Leonardo Garcia Alarcón.
Je pense que oui, Vox Cantori, c'est l'ensemble qui interprète la messe d'Elfer. Ils le font de manière vraiment admirable. Et c'est une méditation pour nous. Au moment qu'on a fini de jouer de Lully, c'est une grande méditation, parce que revenir à une polyphonie accompagnée seulement d'un serpent et pouvoir timbrer les voix vraiment à l'ancienne et pouvoir donner à la simplement sans accompagnement d'instruments. La pureté de la polyphonie ancienne nous amène vers quelque chose d'autre, vers un lieu très très différent qui est presque pas humain. Dans la force de l'oubli, il y a quelque chose à laquelle on voit que même dans les funérailles, la personne, elle est là. Les forces motrices, les forces charnelles, les forces humaines sont là. Mais dans la polyphonie ancienne, on sait très bien à quel point c'est quelque chose qui nous amène à un autre monde. Alors c'est un voyage de ce type aussi qui était formidable de faire. Presque jamais, les musiciens, on entend un concert des autres. Et dans ces spectacles, on entend un concert. Et ça nous nourrit et ça nous purifie, ça nous provoque une certaine catharsis.
Jean-Christophe Candeau, vous êtes le directeur musical de l'ensemble vocal Vox Cantoris. Alors c'est à vous que revient d'interpréter cette Missa pro defunctis Charles Delfer. Et vous serez placé ici, voilà, à cet endroit de la basilique,
oui,
que je voudrais que vous décriviez.
Eh bien écoutez, notre instrument c'est le lutrin, qui est un objet emblématique pour les chantres durant des siècles, puisque c'est le lutrin, c'est le lieu où les chantres se réunissent et on pose sur le lutrin les grands livres de chœur. Alors il y aura deux lutrins, celui qui est dans le chœur où on va poser un facsimilé du livre de chœur où se trouve la messe polyphonique de Charles Delfer, donc le Requiem. Et ici même, près de l'orgue de chœur, un autre lutrin où on va déposer un facsimilé d'un graduel versaillais du XVIIe siècle où sera chanté tout le plein chant du Requiem, toutes les intonations Requiem, les Kyriés aussi en plein chant qui vont être chantés en alternance avec la polyphonie. Alors on a fait vraiment un travail de reconstruction d'un chœur d'église au XVIIe, mais aussi au XVIIIe et bien avant aussi.
De reconstruction plus que de reconstitution, vous diriez, c'est-à-dire qu'on se documente beaucoup pour monter un spectacle comme celui-ci, et ne serait-ce que sur le rituel des funérailles des souverains qui ont été accompagnés jusqu'ici, jusqu'à leur mort, et en particulier Louis XIV. Mais on en fait quelque chose d'aujourd'hui, si je puis dire.
Oui, on en fait quelque chose d'aujourd'hui. Nous, en tant que chanteurs, musiciens, et c'est tout le travail de Vox Cantoris, la voix du chantre. Quelle est-elle, cette voix du chantre? C'est une voix qui porte loin, c'est une voix qui est forte. Et reproduire, faire un facsimilé de ce livre de chœur à parties séparées, c'est-à-dire que chaque voix, supérius, contre-ténor, ténor et basse, sont séparées. Donc les chanteurs ne voient pas ce que chantent les autres, mais il entend ce que chantent les autres. Donc c'est un travail d'oreille. Donc on est là depuis mardi. Nous sommes rentrés dans cette musique, nous nous la sommes appropriée. Et donc nous chantons tous autour d'une même grande partition. Et ça, c'est comme un équilibriste qui est là sur son fil sans filet, quoi. Donc ça demande une grande attention et aux chanteurs, ça leur demande un investissement parce que il n'est pas question de lever le nez de la partition parce que là vous êtes perdu.
Cette basilique Saint-Denis, la vastitude de la basilique, elle pose des contraintes, justement, Jean-Christophe Candeau, en termes de vocalité, de façon dont on fait entendre cette musique et cette œuvre d'Elfer.
Il est clair que toute cette musique-là, le plein chant, la polyphonie, le chantre d'église, c'est une voix forte. On a un témoignage au XVIe siècle d'un maître de chapelle italien qui demande à un chanteur s'il pouvait venir chanter à la messe le dimanche. Et lui dit « Ah non, je ne peux pas parce qu'en ce moment j'ai ma voix camerata. Je n'ai pas ma voix a cappella. » Cappella, c'était la voix d'église, une voix forte. Donc il dit, si je viens chanter, je ne vais plus avoir de voix pour chanter dans une cour princière, autour d'une table, dans un salon où on n'a pas besoin de chanter fort, hein, on a juste besoin de chanter. Donc pour nous, c'est un exercice dans la réalité, un grand vaisseau comme cela. Comment le remplir tout en gardant la souplesse, Et donc le facteur qui est très important et que le requiem, une messe de requiem impose, c'est la gravité, c'est la lenteur. Et dans ce tactus qui est lent, il se passe beaucoup de choses. Ça permet au chanteur d'ornementer, d'être très libre dans sa phrase musicale.
Cette vocalité, justement, aujourd'hui, quand on est le chanteur d'un ensemble comme Vox Cantoris, et quand vous dites justement on a plusieurs voix, la voix de chambre, la voix qu'on donne à entendre dans un édifice comme celui-ci, mais elle s'apprend comment aujourd'hui?
Ah, c'est une bonne question. En fait, on évoque trop peu ces questions-là, par exemple au conservatoire. En musicologie, on en parle. Moi, je travaille beaucoup avec les musicologues parce qu'on applique ce que ils donnent dans des conférences. On a beaucoup travaillé avec Thomas Lecomte. J'ai travaillé aussi avec Jean-Yves Ameline, qui est décédé l'an dernier, qui était vraiment le grand spécialiste du plein chant en France. Je travaille aussi avec Cécile Davérigo, qui est chercheuse au CNRS, à la Bibliothèque nationale de France. Voilà. Et avec tous les documents qu'ils mettent à notre disposition, eh bien nous, on est comme un laboratoire d'expérience. Je ne vais pas vous dire, c'est exactement comme cela, mais on va jusqu'au bout. Eh bien, chantons lentement, chantons avec un tactus qui est proche du pouls, donc un peu moins d'une seconde, vous voyez, Et alors on est peu habitué à ce hiératisme de la musique qui est le propre de la musique d'église.
La dernière nuit, c'est le titre du spectacle dont Mathieu Koblenz et Jean Bellorini avaient signé la mise en scène pour le festival de Saint-Denis le 8 juin dernier. La partie musicale, c'est deux motets de Lully, Dies Irae et De Profundis, et le Requiem de Charles Delfer, sera reprise lors d'une soirée à Saint-Riquier le 10 juillet prochain. Ce sera toujours sous la baguette de Leonardo Garcia Alarcón. Et quant au festival de Saint-Denis, il se poursuit avec quelques autres beaux moments en perspective. Mardi et mercredi prochain, le Requiem de Verdi, dirigé par Myung Woon Chung à la tête du chœur et de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Vendredi, Des Vêpres de Monteverdi sous la baguette de Maxime Pascal. Et puis le 2 juillet, le chœur de la radio, l'Orchestre National de France, Daniele Gatti et deux grands chanteurs, Christine Schaeffer et Peter Mattei, pour un Requiem allemand de Brahms. Ce sera la soirée de clôture de cette édition 2015 du festival. Et pour nous aussi, c'est aussi bientôt la fin de l'ère des lieux. C'était l'avant-dernier numéro aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, et le dernier que réalisait Béatrice Trichet. Alors je ne suis pas très doué pour les grandes déclarations, mais je veux simplement la remercier du fond du cœur pour le magnifique travail que nous avons fait ensemble, pour les belles équipées que nous avons partagées, et encore et surtout les heures passées à la table de montage, à peaufiner le moindre détail. Ce travail de réalisation est un travail de haute couture, il est précieux, et il est l'une des fiertés de cette maison. Mille merci à elle, donc, qui est de l'autre côté de la vitre, bien sûr, en régie, et que j'embrasse. Et merci également à Stéphane Desmond qui était avec nous aujourd'hui, à Marie-Christine Ferdinand bien sûr qui a préparé cette émission. Info, réécoute et podcast, c'est sur francemusique.fr. À très bientôt.